Vous écoutez, on lit pour vous.
Laura Nicolaï, Étonnante lumière. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. De Robert Lalonde, Christine Brouillette, Roxane Bouchard, à plus près de nous, Olivia Tapiero, Antoine Charbonneau-Demers et Paul-Serge Forêt, ces écrivains et écrivaines, qui ont tous et toutes marqué les lettres québécoises, sont les lauréats du prix Robert Cliche, honorant l'écriture d'un premier roman jugé d'après ses qualités exceptionnelles. Au tour de Laura Nicolaï de recevoir la récompense souvent garante de la découverte d'une nouvelle voix forte, ce qui est absolument le cas cette année, dont on voudra suivre longtemps le parcours littéraire. Son livre, Rue Escalii, nous ramène en 1975 dans une petite localité de Bucarest où nous faisons la connaissance de personnages peut-être imparfaits, mais qui arrivent à nous réconcilier avec l'idée d'une certaine humanité. Élève exemplaire, Laura Nicolaï, originaire de la Roumanie, se trouve devant tous les possibles quand vient le temps d'embrasser une profession. Ses parents la destinent à une carrière de médecin, mais la jeune femme veut plutôt faire littérature. À 10 ans, j'écrivais déjà mon premier roman, dit celle qui n'a jamais regretté son choix. Une bourse d'études l'amène à l'Université Laval afin d'étudier les lettres québécoises, avec comme premier coup de cœur les mots de Régent Ducharme. En parallèle de son cursus scolaire, elle reprend l'écriture qu'elle avait quelque peu délaissée au seul profit de la lecture. Des années qui lui seront profitables, car l'autrice affirme que lire est aussi un acte d'apprentissage pour celui ou celle qui souhaite écrire. Elle ressaisit donc la plume et peaufine ses histoires, son style. Plus tard, elle enseigne la littérature au Cégep Vanier à Montréal, où par ailleurs elle travaille toujours. Lorsqu'elle se sent prête, elle tente sa chance pour le prix Robert Cliche. On connaît la suite. Des gens bien. Le roman s'amorce sur un événement inquiétant. Un homme du quartier, Spiridon Popescu, est retrouvé inconscient et gravement blessé dans le potager d'un voisin, tout près de son chien mort. La situation pour le moins malencontreuse, surtout dans ce coin de pays relativement paisible, mènera à une enquête. Mais cette intrigue n'est pas forcément l'intention principale du livre, bien qu'elle soit en filigrane de l'histoire du début à la fin. J'avais besoin d'une petite étincelle pour rendre les interactions entre les voisins encore plus vives, exprime l'autrice. Les protagonistes constituent sans doute une des forces majeures du livre, tous possédant une essence propre aboutissant presque à les matérialiser devant nous. Ce qui est important pour moi est de trouver une caractéristique physique et une faille émotionnelle qui individualise très bien le personnage, précise Nicolaï. Et le rassemblement de chacune des individualités, leur rapport, leur filiation, leur connexion assure l'équilibre, la cohésion et l'intérêt de l'œuvre. L'idée première de Rue Escalii vient à Laura Nicolaï lorsqu'elle réalise que la génération des vétérans de la Deuxième Guerre, celle de ses grands-parents, a quasiment disparu. Cette constatation la conduit à vouloir transmettre l'héritage de ces gens et des instants de félicité qu'ils ont réussi à aménager par la suite en dépit des temps difficiles traversés. Elle met alors en scène le couple formé par Sophia, gardienne de la maison et amatrice de couture, et Constantin, cordonnier passionné de botanique, qui élève Gabriella et Andrei, leurs petits-enfants. Mais il ne faut pas croire que les habitants de cette petite bourgade sont idéalisés et sans tache. L'autrice dépeint toutes les nuances de la nature humaine et des êtres, plus bilieux ou amers, paraissent prendre plaisir à entretenir leur rancœur. J'ai conçu ce livre comme en étant un sur l'amitié, mais il y a aussi la méchanceté gratuite, la mesquinerie. Ça fait partie de la dynamique d'une société, soutient-elle. De plus, Personne n'est tout noir ou tout blanc. Chacun abrite sa part de venin et de maussaderie souvent issues des marques du passé. Certains ont eu le temps de les apprivoiser, d'autres non, explique Nicolae. Les stigmates de la guerre du personnage de l'ancien aviateur Snescu sont visibles à même son visage et son corps. Mais la présence de sa femme Margareta, les visites quotidiennes chez Sofia et Constantin, le projet qu'il ourdit avec l'ingénieur Liliane, le tirent de ses torpeurs et le maintiennent du côté du soleil. Également, le gros livre historique qu'il trimballe partout où il va, « Parce que j'ai de la misère à imaginer la vie de quelqu'un sans livre », dit Nicolae, l'apaise, le rassure et témoigne des années vécues. Le jeune Andri, quant à lui, voit défiler les événements du passé à travers l'œil de verre du capitaine. Extrapolé métaphoriquement, poétiquement, cet élément surnaturel agit à la manière d'une mémoire perpétuée par-delà les générations. Je savais depuis le début que je ne pourrais pas écrire le livre sans une touche de réalisme magique. Ça fait partie de la façon dont j'ai grandi et dont les gens autour de moi en Roumanie percevaient la réalité, commente l'écrivaine. Il croit à une réalité magique autant qu'en la science et les équations d'Einstein. Cette sublimation du réel amène déjà une mesure et une attitude d'approche différente, apportant une dimension où le sens des choses devient exponentiel. Le voisin Pouyou, naïf et sensible, très touchant avec sa passion pour les abeilles, ouvre aussi des interprétations nouvelles, vouant à ce qui l'entoure un regard patient et attentif. À l'image du petit prince empressé envers sa rose, il prodigue à ses ruches prévenance et délicatesse. Une discrète résistance. Plusieurs détails du livre proviennent des souvenirs d'enfance de l'écrivaine, par exemple l'atmosphère qui régnait dans l'air d'été au sud du pays. « Je voulais absolument que cette lumière couleur miel, douce et empreinte de chaleur qu'il y a au mois de juillet en Roumanie, apparaisse quelque part dans un livre », explique Nicolae. Ce souhait de rendre tangibles ces impressions de bonheur simple, aussi fugaces soient-elles, insuffle un charme au roman sans pour autant le confiner à la mièvrerie. À la période où se déroule le récit, le communisme est encore présent, mais la contrée bucarestoise d'Andronache semble vivre à l'écart de cette doctrine. Laura Nicolae a voulu utiliser un plan rapproché et se concentrer sur une petite collectivité étant parvenue à se construire un antre calme en dehors du régime politique imposé. Pour chasser la peur qu'a introduite la doctrine répressive ayant sévi pendant 40 ans sur l'Europe de l'Est, l'enquête qui aura cours est présentée à la manière d'une caricature, rendant ce système prônant la filature et incitant à la dénonciation inopérant et sans véritable pouvoir. La rue Escalei donne l'impression d'avoir su conserver un esprit communautaire, un art de vivre où la préséance du lien protège de toute intrusion. Le message de mon livre est qu'au-delà de tout ce qui est donné, on a toujours une possibilité d'améliorer les choses, de les vivre autrement, dit Nicolae. Notamment par les temps d'arrêt pris au cœur de la journée où n'existe que le moment observé ou celui d'être ensemble. L'univers que Laura Nicolae déploie avec Rue Escalei mise sur la beauté, dégage une tendresse assumée et propose un refuge possible. Les pages se tournent et tout est là, un gîte niché au creux d'un roman. C'était Laura Nicolae, Étonnante lumière, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
La rétention des 18-25 ans dans la communauté britanno-colombienne francophone, c'est possible. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Retenir les jeunes francophones de 18 à 25 ans dans leur communauté n'est certes pas un mince défi à relever. Et pourtant, de véritables progrès ont été réalisés en 2022-23 grâce à la mise en commun des efforts du Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser et le Conseil jeunesse francophone en Colombie-Britannique. Cette collaboration a porté fruit et elle se poursuivra pour l'année prochaine. Et ce modèle d'intervention soulève également de l'intérêt dans d'autres provinces. L'accord initial, ratifié l'an dernier par les deux organismes, s'est avéré productif et il sera bonifié cette année. Pour la collaboratrice chargée du recrutement et de la vie étudiante au BAFF, Sandra Lafleur, l'entente aurait pu être officialisée bien avant. La coordonnatrice décrit l'accord en deux parties. Un montant d'argent est alloué au CJFCB pour l'organisation d'activités reliant nos étudiants à la communauté francophone. L'autre partie mise sur le rayonnement de SFU et de son offre en français auprès des jeunes au secondaire. On commandite donc des événements clés du CJFCB où l'on veut de la visibilité. Sandra Lafleur rappelle que l'investissement en argent de SFU et d'autres bailleurs de fonds a contribué à l'embauche d'une employée s'occupant des jeunes adultes à temps plein au CJFCB. La personne présentement en poste est, en plus, une diplômée de SFU. La boucle a donc été bouclée, s'exclame-t-elle ravie. Le comité 18+ du Conseil jeunesse. La directrice générale adjointe du CJFCB, Marie-Athéna Gaudet-Escoffier, indique que le développement d'occasions en français, en Colombie-Britannique, pour les 18 ans et plus, fait partie intégrante du plan stratégique 2019-2024 de son organisme, ce qui a d'ailleurs mené à la création du comité 18+ en 2019. Cette année, le comité 18+ se composait de 14 bénévoles âgés de 18 à 25 ans provenant de différentes régions de la province. Nous avons organisé avec eux 15 activités et accueilli 279 participants en plus d'activités de la rentrée à la SFU, énumère la directrice adjointe du CJFCB. Zantia Bérubé et Nicolas Deport-Pomerleau, membres du comité 18+, cette année, encouragent les jeunes à participer aux activités du CJFCB pour renforcer leur lien avec la francophonie malgré les défis rencontrés. Un manque d'accès à l'information, le choix restreint des activités et institutions francophones à fréquenter, un choix minimal d'options de programmes francophones universitaires ou tout simplement un manque de temps. Si on ne parle pas français à la maison ou avec des amis, c'est important de se trouver des passe-temps en français ou de joindre des groupes francophones, comme le comité 18+, qui offre des activités variées pour tous les goûts, conseille le trilingue Nicolas Deport-Pomerleau, dont le parcours scolaire s'est effectué auprès du Conseil scolaire francophone de la province et qui étudie désormais à l'université en anglais. Marie-Athéna Gaudet-Escoffier souligne également l'accès récent des francophones de 18-25 ans aux grands événements coordonnés par le CJFCB Tels que le Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, les Jeux francophones de la Colombie-Britannique et la SAGA, une initiative autour de l'engagement jeunesse et de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, tout cela suscitant l'intérêt des jeunes. Peu importe les défis, l'union désormais officielle entre le BAFF et le CJFCB est un franc succès chez l'ensemble des intervenants. Et quand nous partageons notre modèle de collaboration avec nos homologues des autres provinces et territoires, ils ont tellement envie de faire la même chose avec leurs universités locales, conclut Marie-Athéna Gaudet-Escoffier, invitant les jeunes adultes à saisir la chance qu'ils ont d'évoluer dans une communauté francophone aussi dynamique. C'était la rétention des 18-25 ans dans la communauté britanno-colombienne francophone, c'est possible. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.
« 50 nuances de rose », un texte de Mélissa Antil, paru le 25 juillet 2023 dans Le Devoir. Voilà que Mattel, flairant les millions potentiels, nous resserre sa Barbie dans un long-métrage publicitaire. La bimbo blonde figure déjà sur plusieurs couvertures de revues et la marchandise bonbon fait rapidement son apparition dans les vitrines. Ce film, que je n'ai pas vu, semble enchanter les critiques et alimente un faux débat visant à savoir si la célèbre poupée, longtemps décriée, est en réalité une icône féministe. Spin habile s'il en est, car ce déferlement de Rose Nanan n'est rien d'autre qu'une gigantesque campagne visant à vendre encore des tonnes de produits faits en Chine. On peut penser que Mattel s'inspire ici de Disney qui, début des années 2000, a procédé à une lucrative campagne de remise en marché des princesses, laquelle a permis à la multinationale de récolter des centaines de millions de dollars. On suivit des tonnes de produits dérivés liés aux princesses, et soudain, toutes les filles petites et grandes sont devenues obsédées par Cendrillon, Aurore, Blanche-Neige, etc. et autres nouvelles moutures toutes créées ou revisitées à la sauce Empowerment, la formule magique du moment qui fait avaler et acheter n'importe quoi. Il reste qu'à l'heure actuelle, on semble encore bien loin du conte de fées. Pensons à la Blanche-Neige du conte traditionnel, laissée pour morte dans son cercueil de verre après avoir croqué dans l'irrésistible pomme empoisonnée offerte par sa belle-mère jalouse. Dans la version de 2023, toutes les jeunes filles d'aujourd'hui ont à la main un étincelant apple malsain, miroir cruel qui leur renvoie à l'infini la même question : qui est la plus belle ? Il faut les voir dans le métro, dans la rue, partout hypnotisées par les mêmes images qu'elles font prestement défiler. Celles d'idoles et rivales potentielles prenant la même pose, avec la même moue, les mêmes longs cheveux, les mêmes fossiles. La vanité a déjà été un défaut qu'il fallait surmonter. Et que dire de la version actualisée de la Belle au bois dormant? La belle au bois Tinder qui se réveille auprès d'un prince tout sauf charmant. Ai-je besoin d'en dire plus? Sans oublier non plus Cendrillon, la souffre-douleur aux prises maintenant avec ses belles-sœurs drag ou trans qui rivalisent avec elle et l'accusent de ne pas les aimer suffisamment. Anxiété, dépression, retour des troubles alimentaires, problèmes de santé mentale. Les filles, au lieu d'être épanouies, sont torturées, et de plus en plus tôt, par les images. la leur et celle des autres, dont elles ne peuvent détourner le regard. Le mariage terrible du féminisme et du consumérisme, scellé pour de bon, a triomphé. Le message qui en résulte, plus diabolique que jamais, voulant que l'émancipation passe par la consommation, est décliné à l'infini. Le film publicitaire mettant en scène la catin aux cheveux platine n'en est que l'une de ses dernières incarnations. Les filles méritent mieux. 50 nuances de rose ne suffiront jamais. C'était 50 nuances de rose, un texte de Mélissa Antil paru le 25 juillet 2023 dans Le Devoir.
Le champ des possibles. Une chronique de Sophie Gagnon-Roberge, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Le calendrier officiel commence en janvier, mais pour ceux d'entre nous qui fréquentent les bancs d'école, septembre représente davantage le début de l'année, ce moment où le champ des possibles s'ouvre de nouveau à nous, comme si on pouvait se réinventer en changeant de classe et d'amis. Toutefois, il arrive qu'on soit tiré de force de notre confort, et de nouveaux repères doivent alors être envisagés dans l'urgence. C'est ce qui arrive au héros de Valérie Fontaine dans « Au bord de l'errance », petite plaquette qui aborde de front la problématique de la crise du logement qui sévit actuellement. Si on soustrait un appartement dans l'équation de notre vie et que celui-ci n'est pas remplacé, il reste juste rien comme résultat. Alors que la littérature adolescente met généralement en scène des protagonistes de cet âge, la prolifique autrice jeunesse, mère de trois jeunes de 17, 14 et 12 ans, a décidé de confier la parole en alternance à William et à sa mère. Une façon de montrer les deux côtés de la médaille et de développer l'empathie de son lectorat en lui permettant de se décentrer. L'onde de choc survient lorsque le propriétaire leur annonce qu'il reprend le loyer. Avec leurs deux salaires d'employés de dépanneur, William travaille à temps partiel pendant l'année scolaire, pour subvenir à leurs besoins et à ceux d'une jeune sœur et d'un chien en plus, la mère et le fils s'aperçoivent vite que la recherche sera compliquée. Des problèmes d'adultes, oui, mais qui ont un impact sur toute la famille et qui viennent bouleverser le quotidien de cet adolescent qui voudrait juste, comme ses amis, pouvoir accéder à un peu de légèreté. Je me rends compte à quel point c'est un défi, avec nos ados, de vivre nos vies en parallèle et entrecroisées, explique l'autrice, ce dont elle témoigne bien ici grâce à la double narration. Celle-ci nous donne l'occasion de voir comment William vit le tout de l'intérieur, au même titre que nous prenons connaissance de la réalité de sa mère, qui veut bien faire et sauver sa famille, mais ne sait pas toujours comment, surtout dans un monde où les solutions ne sont pas facilement accessibles. Hyper ancré dans l'actualité, le livre nourrit l'espoir, mais atteste également du fait qu'il faut se débattre longtemps et faire preuve d'une bonne part d'imagination pour dénicher des astuces. Créatives, les héroïnes du roman « Le dernier mot » doivent l'être quand leur enseignant et mentor leur annonce que la direction a décidé de fermer le journal étudiant au moment où il prendra sa retraite. Hors de question pour Héloïse, prête à s'enchaîner à la porte du bureau de Madame Couillard s'il le faut, de ne plus publier le journal qui a été sa raison de vivre et la source de plusieurs amitiés. Sa quête pour inventer un moyen efficace de se sortir de cette impasse commence donc en compagnie de sa meilleure amie et du graphiste du journal, un garçon qui fait par ailleurs battre son cœur. Du moins jusqu'au moment où Héloïse découvre un message anonyme dans un livre de la bibliothèque, point de départ d'une correspondance qui pourrait bien lui permettre d'explorer de nouvelles facettes de sa personnalité. Première incursion chez le lectorat adolescent de la part de Maud Neveu-Villeneuve, autrice sensible qui s'adresse tantôt aux adultes, tantôt aux petits. Le dernier mot parle d'amitié et de lutte pour ce qui nous est cher, de même que d'attirance et de littérature. Certes, si plusieurs auteurs aiment dire que leurs personnages sont de grands lecteurs, Neveu Villeneuve, professeur de français au collégial, va plus loin en faisant vraiment parler son héroïne et sa correspondante secrète de leur roman préféré à travers les missives échangées. Au fil des pages, les lecteurs peuvent alors découvrir des recommandations littéraires telles que « Les quatre filles du Dr. Marsh », « La vallée des avalées » ou encore « Antigone », des œuvres féministes fortes qui aiguisent le regard de sa protagoniste et l'ouvrent à d'autres horizons. De nouveaux territoires à explorer s'offrent en ce début d'année, alors que la rentrée voit naître Kairos, une nouvelle maison d'édition québécoise qui, si elle n'a pas les adolescents comme public cible initial, pourrait bien rejoindre tous les fans des œuvres de Colleen Hoover, par exemple, ou encore offrir une option de lecture plus positive que la dark romance. Alors que les livres de ce style controversé envahissent de plus en plus les tablettes des librairies, causant du stress à la fois aux libraires et aux parents, les deux cofondatrices de Kairos, Jessica David et Geneviève Simard, se donnent en effet comme défi de proposer des romances qui visent un public de tout âge, permettant ainsi aux adolescents de lire des relations amoureuses plus saines. C'est dans ce cadre que Jessica David, autrice comme sa collègue, signe « Quand est tombé ». Ce roman suit le parcours d'une jeune femme, Ellie, dont le fiancé meurt dramatiquement lors d'un voyage d'escalade. Ayant perdu toutes ses marques, l'héroïne se lance le défi d'accomplir la bucket list de son ancien amoureux, ce qui implique d'apprendre à grimper et de voyager. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Jackson, le meilleur ami de son Anto, se trouverait aussi souvent sur sa route, et que sa présence éveillerait des émotions et des désirs qu'elle ne pensait plus possibles. Pouvant s'apparenter au récit de type « Enemy to Lovers » et construisant lentement le magnétisme entre les deux personnages à coups de description où on sent la tension charnelle poindre de plus en plus fort, « Quand est tombé » propose quelques scènes de sexualité décrites dans le détail tout en se concentrant sur l'évolution psychologique de sa narratrice. De quoi plaire à celles et ceux qui lisent « Icebreaker » et autres romans du genre, mais surtout de quoi offrir un récit positif qui met en valeur la découverte de soi et le respect. Parce que choisir ce qu'on lit, c'est en même temps se définir, peu importe notre âge ou notre parcours. À la manière d'une rentrée scolaire, la rentrée littéraire nous présente 1000 chemins. Lequel emprunterez-vous? C'était « Le champ des possibles », une chronique de Sophie Gagnon-Roberge parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.